Chapitre 21. Quelques petits tours avec le pouvoir. L'âne aurait juré que le voyage jusqu'à Tchatchin serait un cauchemar, et il ne fut pas déçu. Chevauchant sans relâche, ils dépassèrent plusieurs caravanes de marchands, ne s'arrêtèrent jamais longtemps dans les villages, et dormirent presque toutes les nuits à la Belle Étoile, puisqu'aucun des hommes n'avait assez d'argent pour payer l'auberge et les écuries pour 4 personnes. Les granges n'étaient pas si mal au fond, mais encore fallait-il en trouver une à la tombée de la nuit, ce qui n'était pas évident. Les villages étaient rares, et les fermes isolées n'existaient pas dans les terres frontalières. Tôt ou tard, une telle exploitation se transformait en cimetière, et personne n'avait envie de se suicider ainsi. Alice continua à chercher sa dame Aven dans tous les villages qu'ils traversèrent. Se taisant dès que l'âne ou un des deux autres Malkyrie approchait un peu trop, elle les foudroyait du regard, jusqu'à ce qu'ils consentent à s'en aller. Pour foudroyer du regard, cette femme était vraiment douée, surtout quand il s'agissait de l'âne. Jouant les étonnés, avec un air de parfaite innocence, Rhein approchait quand même et couvrait la jante dame de compliments, tel un courtisan en représentation. Il semblait toujours hésiter entre fascination et méfiance, et Alice, intriguée, acceptait ses flagorneries, semblait se réjouir de sa soumission à rien craintive et riait aux éclats à chacun de ses traits d'esprit. Cela dit, Alice ne se concentrait pas exclusivement sur Rhein. Très régulièrement, elle bombardait les 3 hommes de questions, comme si elle avait voulu connaître dans le détail l'histoire de leur vie. Et cette femme était comme un essaim de mouches. Plus on essayait de la chasser, et plus elle se faisait insistante. Rhein lui-même se montra assez avisé pour esquiver ses interrogatoires en règle. Le passé d'un homme lui appartenait, à égalité avec ceux qu'il avait vécu avec lui. Ce n'était pas un sujet à évoquer avec une femme aux tendances d'inquisitrice. Question ou pas question, Boukama continuait son harcèlement. Sans la moindre cesse, tous les mots qui sortaient de sa bouche concernaient le fameux serment. L'âne se demanda si, pour le faire taire, il n'allait pas devoir jurer qu'il ne se lierait pas à cette femme. Par 2 fois, des nuages noirs venus de la flétrissure déversèrent une pluie glacée, mêlée de grêlons assez gros pour fracasser la tête d'un homme. Au printemps, les pires orages venaient toujours de la flétrissure. Dès qu'il vit les nuages, au nord, l'âne commença à chercher un bosquet d'arbres dont les branches seraient assez denses pour abriter 4 cavaliers, éventuellement avec l'aide de couvertures tendues au-dessus de leur tête. Quand Alice comprit ce qu'il faisait, elle lâcha froidement.
« Inutile de nous arrêter, maître l'âne. Vous êtes tous sous ma protection. »
Plus que dubitatif, l'âne n'avait pas abandonné ses recherches, quand le premier orage éclata. Des éclairs zébrèrent le ciel soudain aussi noir qu'en pleine nuit, et le tonnerre fit trembler la terre. Mais la pluie glissa le long d'un dôme invisible qui enveloppait les cavaliers et se déplaçait avec eux. Quant aux grêlons, ils rebondirent contre cette protection, dans un parfait silence, comme s'ils n'avaient rien heurté du tout. Alice généra le même dôme lors du 2e orage. Là encore, elle parut étonnée par les remerciements de ses compagnons. Son visage ne changea pas d'expression, mais une lueur de satisfaction passa dans ses yeux. Une femme étrange, décidément. Les voyageurs aperçurent des bandits, la preuve que les rumeurs n'en étaient pas. Des groupes d'une 10aine d'hommes en haillons et pas très bien armés, qui préférèrent ne pas tenter leur chance contre des guerriers qui les visaient déjà de leurs arcs. Quand ces hors-la-loi battaient en retraite, l'âne ou Boukama les poursuivait un moment, histoire de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une ruse. Aucune précaution n'était de trop, quand on voulait éviter de tomber dans une embuscade. À midi, le 4e jour, la petite colonne entreprit la traversée d'une série de collines boisées, le long d'une piste qui serpentait aussi loin que portait le regard. Dans un silence paisible et sous un ciel limpide, le voyage cauchemardesque prenait soudain des allures de promenade. Bien entendu, ça ne dura pas. Des cavaliers jaillirent soudain du couvert des arbres, des 2 côtés de la piste. Une 20aine de types miteux mais armés qui vinrent barrer le chemin aux voyageurs. Des bruits de sabots dans le sous-bois indiquèrent qu'il n'était pas seul. Laissant tomber ses rênes sur le pommeau de sa selle, l'âne prit dans son carquois 2 flèches supplémentaires, qu'il tint entre ses doigts tandis qu'il armait son arc où était déjà accroché un projectile. Il n'était pas sûr de pouvoir tirer 2 fois, mais, si l'occasion se présentait, il n'entendait pas rater sa chance. 3 des ruffians qui leur faisaient face arboraient un plastron mangé par la rouille, et 1 seul portait un casque à gris lui aussi rongé par le ver de gris. Aucun agresseur potentiel n'avait d'arc, mais ça ne changeait pas grand-chose.
« 23 derrière nous, à 30 pas, »
annonça Boukama.
« Pas d'arc non plus. J'attends ton ordre. »
Arc ou pas, il s'agissait d'une bande assez puissante pour attaquer une caravane de marchands. L'âne ne tira pourtant pas. Tant que les bandits restaient assis sur leur monture sans broncher, les choses pouvaient encore bien tourner. Une chance infime, certes, mais la vie et la mort ne tenaient bien souvent qu'à un fil.
« Ne nous précipitons pas !»
dit l'homme qui devait être le chef en retirant son casque. La chevelure en bataille, une barbe broussailleuse, il avait tout d'un ours.
« Vous tuerez peut-être deux ou trois pauvres gars avant qu'on vous ait taillé en pièces. Mais pourquoi tant de violence ? Remettez-nous votre argent et les bijoux de la jolie dame, et nous vous laisserons partir. Les nobles dames en robe de soie ont toujours beaucoup de bijoux, pas vrai ?»
L'homme fit à l'âne et à Alice un rictus qu'il prenait peut-être pour un sourire amical. La proposition n'avait rien de tentant. Si c'était possible, les bandits voulaient éviter toute perte dans leur rang. Mais s'ils se rendaient, l'âne, Boukama et Rhine finiraient égorgés comme des agneaux. En revanche, les ruffians avaient sûrement l'intention de garder Alice en vie, le temps de déterminer si elle était dangereuse. Si elle gardait dans sa manche quelques petits tours liés au pouvoir, c'était le moment ou jamais de...
« Vous osez barrer le chemin à une Aes Sedai ?»
tonna-t-elle. Tona n'était pas exagérée, car elle avait amplifié sa voix. Les chevaux des bandits les plus proches renaclèrent, et félin dansant, sachant comment réagir lorsque son maître lâchait les rênes, ne broncha pas, en attendant la pression des genoux qui lui indiquerait de charger.
« Rendez-vous, ou affrontez mon courroux !»
Une lance de feu rouge explosa au-dessus de la tête des bandits, affolant davantage encore leur monture. Deux cavaliers, sans doute parce qu'ils étaient médiocrement doués pour l'équitation, ne parvinrent pas à rester en selle.
« Koi, je t'avais dit que c'était une Aes Sedai !»
gémit un gros type chauve, à l'étroit dans un plastron bien trop petit pour lui.
« Une sœur verte et ses trois champions, je te l'avais bien dit !»
Le chef gifla le gros geignard sans même daigner le regarder.
« Nous rendre !»
répéta-t-il, les yeux rivés sur Alice.
« Nous sommes 50 et vous 4. Plutôt que de finir sur la potence, nous verrons bien combien d'entre nous vous pouvez tuer avant de succomber. »«
D'accord, » dit l'âne. « On oublie la reddition. Mais si je vois encore un seul d'entre vous quand j'aurai compté jusqu'à 10, ce sera un massacre. »
Sur ces mots, il commença à compter. À 2, les bandits s'égayèrent comme une volée de moineaux. À 4, les deux mauvais cavaliers, renonçant à remonter en selle, détalèrent à la course, comme s'ils avaient une meute de loups à leur basque. Cette fois, il n'y eut pas besoin de poursuite pour éviter une embuscade. Les échos de la cavalcade, très longs à mourir, indiquèrent clairement que les bandits ne reviendraient pas. Les choses étant ce qu'elles étaient, on pouvait parler d'une issue heureuse. Hélas, Alice ne vit pas les choses de cet œil.
« De quel droit les avez-vous laissés partir ? »
s'indigna-t-elle. Fidèle à ses habitudes, elle foudroya les trois hommes du regard, faisant tourner sa jument sur place afin d'en épargner aucun.
« S'ils avaient attaqué, j'aurais utilisé le pouvoir de l'unique contre eux. Combien d'innocents ont-ils détroussés et tués ? Combien de femmes ont-ils violentées ? Combien d'enfants sont orphelins par leur faute ? Nous aurions dû combattre et livrer les survivants au juge le plus proche. »
L'âne, Boukama et Rhine se relayèrent pour tenter de convaincre Alice qu'une bataille rangée n'aurait pas tourné à leur avantage. Motivés par la peur du gibet, les bandits se seraient battus avec ardeur. Et le nombre avait son importance, même face à une Aes Sedai. Alice continua à affirmer qu'elle aurait pu, seule, venir à bout d'une cinquantaine d'hommes. Une femme très étrange, vraiment. Entre les bandits et les orages, il y avait largement de quoi parler d'un voyage cauchemardesque. Les niaiseries de Rhine et les imprécations de Boukama auraient pu passer pour la cerise sur le gâteau. Mais il y avait l'aveuglement d'Alice, et ça, c'était le bouquet. La première nuit, l'âne s'était rassis dans la gadoue pour montrer qu'il acceptait la vengeance de la jeune femme. S'ils devaient voyager ensemble, autant se considérer comme quitte et passer à autre chose. Mais Alice n'avait pas capté le message. La deuxième nuit, elle n'avait pas fermé l'œil jusqu'à l'aube, s'assurant qu'il ne dormirait pas non plus, en lui flanquant de petits coups d'un fouet invisible chaque fois qu'il piquait du nez. La troisième, du sable réussit à s'infiltrer dans les vêtements et les bottes du guerrier. Sans eau pour les laver, il avait dû les secouer, et la chevauchée du lendemain s'était révélée des plus inconfortables. Les tourments recommencèrent la nuit qui suivit l'attaque avortée des bandits. Mais comment Alice avait-elle pu provoquer une invasion de fourmis dans les sous-vêtements de son ennemi ? Et pourquoi ces fichues bestioles mordaient-elles tout en même temps ? Alice était coupable, ça ne faisait aucun doute. Quand il avait ouvert les yeux, elle le regardait, et elle avait paru surprise qu'il ne crie pas de douleur. À l'évidence, elle cherchait à provoquer une réaction, mais laquelle ? Si elle ne s'estimait pas vengée de son bain forcé, eh bien, elle était sacrément rancunière. Mais toute offense méritait châtiment jusqu'à un certain point. Si la limite semblait largement dépassée, Lan n'avait d'autre choix que serrer les dents jusqu'à l'arrivée à Chachin. Le soir suivant, Alice découvrit un buisson de feuilles urticantes près du camp. À sa grande honte, Lan faillit perdre son sang-froid. Il ne parla pas de ces incidents à ses compagnons, même s'il aurait juré qu'il n'était pas dupe. Excédé, il commença à prier pour que Chachin apparaisse après chaque détour de la piste. Eden avait peut-être chargé Alice de le surveiller, mais elle faisait du zèle, menaçant de bel et bien le tuer, à petit feu. Même si c'était une tautologie lorsqu'il était question des hommes, selon Siouan en tout cas, Moiraine ne parvenait pas à comprendre l'entêtement de Lan Mandragoran. Car enfin, elle voulait simplement qu'il se montre repentant de l'avoir jeté dans l'eau, et qu'il s'excuse, à plat ventre si possible. Et enfin, qu'il lui manifeste le respect dû à une Aes Sedai. Mais ce butor semblait ignorer jusqu'au sens du mot repentance. Il n'était qu'arrogance, et voilà tout. Il doutait qu'elle soit une Aes Sedai, ça crevait les yeux, et c'était hautement insultant. Bien sûr, une part de Moiraine admirait un tel caractère de fer, mais une part seulement. Elle se faisait forte de le mettre à genoux par la lumière, pas de le briser complètement, parce qu'un homme tout à fait apprivoisé ne servait plus à rien, mais de lui faire avaler sa fierté et reconnaître ses très graves erreurs. Elle lui laissait la journée pour réfléchir, pendant qu'elle planifiait son offensive de la nuit. Les fourmis avaient été une cruelle déception. L'art de fédérer les insectes et de les faire mordre ou piquer de conserve était un des petits trucs de l'âge bleu. Elle l'avait certes un peu détourné de son usage, mais il fallait savoir faire flèche de tout bois. Les feuilles urticantes, en revanche, avaient tout d'un triomphe. Le gaillard n'avait pas pu s'empêcher de réagir, prouvant ainsi qu'il était fait de chair et non de pierre. Une évidence dont Moiraine commençait pourtant à douter. Bizarrement, les deux autres guerriers n'avaient pas eu un seul mot pour soutenir leurs camarades, alors qu'ils connaissaient sûrement ses tourments. Car enfin, s'il ne se plaignait pas auprès de son bourreau, ce qui était déjà bizarre, il devait bien chercher la compassion de ses amis, sinon à quoi bon en avoir? Mais ce n'était pas la seule particularité des trois Malkyri. Même aux Kairiennes, les gens parlaient un minimum d'eux-mêmes. Dans les terres frontalières, on ne pratiquait pas le grand jeu, disait-on. Alors que ça ne risquait pas de leur nuire, les trois guerriers n'avaient pas lâché un mot sur leur passé. Pourtant, en bonne stratège, Moiraine les y avait incités, en évoquant des souvenirs de jeunesse et quelques anecdotes sur sa vie à la tour. Rhine avait la politesse de rire quand l'histoire était drôle, ou dès qu'il saisissait qu'elle était censée l'être. Lan et Bukama, eux, semblaient plutôt embarrassés. Enfin, c'était une hypothèse, car, en matière de masque d'imperturbabilité, ils auraient pu en remontrer à bien des Aes Sedai. Par exemple, ils avaient admis avoir rencontré des sœurs avant Moiraine, mais impossible d'en savoir plus sur les détails.
« Il y a des Aes Sedai partout », répondit un soir Lan à Moiraine, alors que les ombres de leurs chevaux s'allongeaient démesurément. « Comment se souvenir des unes ou des autres ? Nous devrions nous arrêter dans le village qui est devant nous, histoire de louer une grange. Si on dépasse ce hameau, il n'y en aura pas d'autre avant la nuit. »
Un numéro de voltige typique. Ces hommes étaient aussi doués que les Aes Sedai pour les réponses évasives et les changements de sujet. Pour tout compliquer, Moiraine n'avait toujours pas déterminé s'il y avait un ou plusieurs suppôts des ténèbres parmi eux. Bien sûr, elle n'avait aucune raison sérieuse de penser qu'une des sœurs rencontrées à Kanoum est appartenue à l'âge noir. Dans ce cas, la visite de Rhine à l'auberge pouvait avoir une motivation des plus innocentes. Mais la méfiance la poussa à continuer ses interrogatoires et à tisser une protection autour de chaque homme toutes les nuits. Dans sa situation, elle ne pouvait se fier à personne, à part Siouan. Toutes les Aes Sedai étaient suspectes, et tous les hommes qui les fréquentaient aussi. À deux jours de cheval de Chachin, dans un village nommé Ravinda, Moiraine trouva enfin Aven Saera. En fait, ce fut même la première personne à qui elle parla. Bien que plus petit que Manala, Ravinda n'avait rien à hameau. Le grand terrain communal en terre battue accueillait des foires, où les paysans des villages voisins venaient vendre leurs produits et acheter la marchandise proposée par les colporteurs. Deux chariots, des poêles et des casseroles attachées partout sur leurs bâches étaient littéralement pris d'assaut par la foule, lorsque Moiraine et ses maussades compagnons arrivèrent. Malgré ce succès foudroyant et partagé, les deux colporteurs se regardaient en chien de faïence. Ravinda pouvait se vanter d'avoir une auberge en cours de construction, le premier étage déjà terminé. Maîtresse Saera avait investi sa prime dans ce projet, et elle comptait baptiser l'établissement à la Tour Blanche.
« Vous pensez que les sœurs n'apprécieront pas ?»
demanda-t-elle, lorsque Moiraine lui suggéra d'opter pour un autre nom. L'enseigne était déjà gravée et suspendue au-dessus de la porte. Si on se fiait à l'échelle, la tour qui avait servi de modèle aurait dû faire plus de 1000 pieds de haut. Mais le problème n'était pas là. Plutôt rondelette, Aven était une femme d'âge mûr, qui portait à la ceinture un coutelas à garde d'argent d'un bon pied de long. Des broderies jaunes ornaient les manches de son chemisier rouge vif de la plus belle tenue. À l'évidence, la prime lui avait permis d'améliorer très nettement son train de vie. Après réflexion, elle répondit enfin à Moiraine.
« Je ne vois pas pourquoi les sœurs en prendraient ombrage, madame. L'Aes Sedai qui est venue relever les noms dans notre camp était agréable et très douce. »
Eh bien, maîtresse Saera verrait ce qu'il en était vraiment, si une sœur décidait un jour de lui montrer son véritable visage. Moiraine aurait donné cher pour se rappeler qu'elle acceptait, avait enregistré le nom d'Aven et validé son droit à la prime. Miguel, le fils de maîtresse Saera, était né à plus de 10 lieues du pic du dragon, une semaine avant la prédiction de Jitara. Tant de négligence, lorsqu'on était chargé d'une mission, confinait à l'intolérable. Combien d'autres enfants dans le carnet de Moiraine ne correspondaient absolument pas aux critères définis? Une plage de temps, c'était pourtant facile à comprendre. Lorsque les 4 voyageurs repartirent, les 3 Malkyrie se réjouirent un peu trop ouvertement que la halte n'ait pas duré une éternité pour une fois. Du coup, l'ire de Moiraine passa de l'accepter incompétente à ses agaçants compagnons. L'imprudence de Rhaen n'arrangea rien lorsque la jeune femme l'entendit dire « Au moins, ce coup-ci, elle n'a pas traîné. » Pour ne rien arranger, Bukama grogna son assentiment. L'âne chevauchait en éclaireur, une tactique visant bien entendu à éviter la compagnie de Moiraine. En toute franchise, elle pouvait comprendre cette réaction, mais le dos du guerrier, droit au point d'en être raide, semblait lui adresser en permanence des reproches muets. Du coup, elle se mit à réfléchir aux tourments qu'elle lui infligerait le soir, sans épargner les 2 autres faquins cette fois. Au début, rien ne vint à Moiraine. Elle avait déjà frappé assez fort, il fallait bien l'admettre. Puis une guêpe passa en bourdonnant à côté de sa joue, et elle la regarda disparaître entre les arbres, sur le bas-côté de la route. Oui, oui, mais il ne s'agissait quand même pas de tuer le malotru.
Maître Lan, êtes-vous allergique aux piqûres de guêpe?
Lan se retourna sur sa selle, faisant presque volter son étalon, et il gémit sourdement, les yeux soudain écarquillés. Un instant, Moiraine ne comprit pas pourquoi cette innocente question lui faisait un tel effet. Puis elle vit la tête de flèche qui dépassait de l'épaule droite du guerrier. D'instinct, elle s'ouvrit à la source, et le Saïdar se déversa en elle. Comme si elle revenait au jour de l'ultime épreuve, les tissages jaillirent à toute vitesse. D'abord un bouclier d'air, afin de protéger l'âne de tout autre projectile. Puis un autre pour elle. Mais pourquoi les avait-elle générés dans cet ordre? Eh bien, elle aurait été incapable de le dire. Sa vision amplifiée par le pouvoir, Moiraine sonda les arbres d'où était venue la flèche. Lorsqu'elle capta un mouvement, plusieurs flux d'air fusèrent et vinrent percuter le tireur à l'instant où il lâchait une 2e flèche. Le projectile fut dévié vers le haut et l'arc du tueur vint s'écraser contre sa poitrine. Moiraine avait agi en une fraction de seconde, inversant complètement la situation. Pas manchot non plus, Bukama et Rhaen avaient chacun décoché 1 flèche, qui se ficha dans la poitrine du tueur. Avec un grognement écœuré, Moiraine relâcha le tissage d'air. Aussitôt, l'archer tomba en arrière. Il avait tenté de tuer l'âne, certes, mais l'immobiliser afin qu'il serve de cible n'avait jamais été dans son intention. Oui, oui, il aurait été condamné à mort par n'importe quel juge. Mais Moiraine détestait l'idée d'avoir participé à l'exécution d'une sentence, surtout avant qu'elle ait été prononcée. À ses yeux, ça revenait à avoir utilisé le pouvoir comme une arme, ou à avoir fabriqué une arme servant à tuer un être humain. Toujours liée à la source, elle se tourna vers l'âne pour lui proposer une guérison. Dédaignant la flèche qui le transperçait de part en part, le Malkyrie talonna sa monture et galopa jusqu'à la lisière des arbres. Sautant à terre, il courut jusqu'au tueur blessé. Bukama et Rhaen ne tardèrent pas à le rejoindre. Grâce au pouvoir, Moiraine entendit tout ce que dirent les 3 hommes et le moribond.
« Kanyedrin ! » s'écria l'âne stupéfait.
« Tu connais ce type ?» demanda Rhaen.
Pourquoi ? »
rugit Bukama. Un bruit sourd indiqua à Moiraine qu'il venait de flanquer un coup de pied dans les côtes du blessé.
« L'or ?»
répondit Kanyedrin d'une voix tremblante.
« Pour quelle autre raison aurais-je fait ça ? L'âne, vous avez toujours la chance du ténébreux. Si vous n'étiez pas retourné, la flèche, en plein cœur, il aurait dû me dire que c'était une Aes Sedai, au lieu de m'ordonner simplement de la tuer en premier. »
Entendant ces mots, Moiraine talonna Flèche, qui avala la distance en un éclair. Puis elle sauta de selle tout en préparant un tissage de guérison.
« Retirez-lui ses flèches !»
lança-t-elle en courant vers le blessé, les ourlets de sa jupe et de sa cape relevés d'une main pour lui épargner de trébucher.
« Si les projectiles restent dans son corps, la guérison ne réussira pas. »«
Pourquoi le sauver ?»
demanda l'âne en s'asseyant sur un arbre abattu par l'orage, les racines encore couvertes de terre humide, se dressant encore au-dessus de sa tête.
« Vous avez tant envie que ça de voir une pendaison ?»«
Il est déjà mort, » annonça Rhine.
« Vous pouvez guérir cette maladie-là ?»
Il semblait sincèrement intéressé par la réponse. Moiraine baissa la tête. Les yeux de Kanyedrin étaient déjà voilés par la mort. Bizarrement, malgré le sang autour de sa bouche, il ressemblait à un gamin imberbe vêtu d'un manteau froissé. Cela dit, il s'était montré assez mûr pour tenter d'assassiner l'âne, et pour mourir à la poitrine transpercée par deux flèches. Désormais, il ne pourrait plus dire s'il avait été engagé par le sinistre Gortanès, ni où se cachait son employeur. Le mort avait un carquois plein de flèches à la ceinture. Deux projectiles reposaient près de lui, à portée de main. Apparemment, il se pensait assez bon pour tuer quatre personnes avec quatre flèches. Alors qu'il connaissait l'âne et Bukama, il n'avait pas douté un instant de son succès. Mais par prudence, justement parce qu'il savait à qui il avait affaire, il avait désobéi à son commanditaire en s'en prenant d'abord à l'âne. Le plus dangereux du groupe, avait-il dû penser. Alors qu'elle observait le cadavre, Moiraine se dit soudain qu'il pouvait quand même lui apprendre quelques petites choses. Dégainant son couteau, elle coupa la sacoche accrochée à la ceinture du mort et la vida sur le sol. Puis elle étudia sa collecte. Un peigne en bois, un morceau de fromage à demi grignoté et couvert de peluche, un petit couteau pliable, une pelote de ficelle, qu'elle déroula pour s'assurer que rien n'était caché dedans, et un mouchoir, dans un état si répugnant qu'elle le déplia de la pointe de son couteau. Bien sûr, il aurait été trop beau de trouver une lettre signée de Maître Gortanès et contenant toutes ses coordonnées. Faisant subir le même sort à la bourse du cadavre, Moiraine la vida un peu plus loin. Il en sortit quelques pièces de cuivre et d'argent, plus 10 couronnes d'or. Ainsi, au camp d'or, le prix de sa vie équivalait à celui d'une robe de soie à Tarvalon. Sur les couronnes, elle reconnut le soleil levant du Kairien côté pile, et côté face, le profil de son oncle Laman. Un détail digne de la lignée d'Amodred, lorsqu'on connaissait son histoire.
« Vous aimez détrousser les morts ?»
demanda l'âne de son ton calme tellement agaçant. Ce n'était pas une accusation, simplement une question. Et pourtant, Moiraine se releva, furieuse, au moment où Rhine cassa d'un geste vif la hampe de la flèche qui traversait l'épaule de l'âne. Le projectile ainsi débarrassé de son empennage, Bukama noua l'extrémité d'une lanière de cuir derrière la tête de fer. Dès qu'il eut fini, il tira sur la lanière, sortant ce qui restait de la hampe de l'épaule du blessé. L'âne scia. On venait de lui sortir une flèche du corps et il était resté de marbre, se contentant de battre des paupières. Moiraine en conçut une irritation qu'elle n'aurait pas pu expliquer, mais qui la fit trembler intérieurement. Rhine retourna vers la route tandis que Bukama aidait son ami à retirer sa veste et sa chemise. Le trou de sortie de la flèche n'était guère beau à voir, et l'orifice d'entrée ne devait pas être plus réjouissant. Le sang, jusque-là retenu par les vêtements, commença à couler sur la poitrine du blessé. Bukama et l'âne ne demandèrent pas une guérison. Un instant, Moiraine se demanda si elle allait en proposer une. Le torse de l'âne était couturé de cicatrices, certaines toujours boursouflées et d'autres même pas encore débarrassées de leurs poings. À l'évidence, le Malkyrie énervait autant les hommes que les femmes. Rhine revint avec des pansements et un cataplasme de mie de pain, récupéré dans un panier d'osier du cheval de bas. Par la lumière, ces idiots ne demanderaient pas une guérison, quitte à ce que l'âne se vide de son sang.
« Accepteriez-vous une guérison ?»
demanda Moiraine, en tendant les mains vers la tête du blessé. Il recula pour échapper à son étreinte. Oui, il recula.
« Dans 2 jours, à Chachin, » marmonna Bukama en se grattant le nez, les yeux rivés sur le sol. « Tu pourrais avoir besoin de ton bras droit. »
Une étrange remarque, mais demander des explications aurait été parfaitement vain. L'âne hésita, puis il acquiesça et se pencha vers Moiraine. Sans demander une guérison, ni même daigner l'accepter, comme si c'était un dû. Moiraine plaqua les mains sur les tempes du guerrier, une paire de gifles aurait été à peine plus violente, et s'ouvrit à la source. Quand le pouvoir déferla en lui, l'âne eut de telles convulsions que sa tête échappa un instant aux mains de l'Aes Sedai. Un spectacle satisfaisant, même s'il ne poussa pas un cri, respirant à peine un peu plus fort que d'habitude. Les vieilles cicatrices demeurèrent. En revanche, les cicatrices boursouflées se transformèrent en fines lignes roses, et les points tombèrent les uns après les autres, sauf les plus profonds, qui risquaient bien de rester en place à jamais. Les trous d'entrée et de sortie de la flèche se refermèrent, laissant la peau lisse et rose, comme si rien n'était arrivé. Voilà, un Lan en parfaite santé pourrait affronter les guêpes. Et s'il le fallait, Moiraine le guérirait de nouveau, mais seulement si c'était obligatoire. Même si les trois Malkyrie en auraient eu rudement besoin, ils laissèrent les pièces à côté du cadavre, car ils ne voulaient rien lui devoir. Bukama trouva la monture du tueur un peu plus loin, attachée à un arbre. Un hongre marron aux pieds blancs qui semblait taillé pour la vitesse. Il retira le mors de la bouche du cheval et l'attacha à la selle, puis il flanqua une tape sur la croupe de l'animal, l'envoyant galoper en direction de Ravinda.
« Comme ça, » dit le guerrier, voyant le trouble de Moiraine. « Il pourra manger, jusqu'à ce que quelqu'un le trouve. »
À vrai dire, la jeune femme regrettait surtout de ne pas avoir fouillé dans les sacoches de sel du hongre. L'initiative de l'âne procédait néanmoins d'une étonnante compassion, dont elle l'aurait cru totalement incapable. Un instant de grâce, décida-t-elle, qui lui vaudrait d'échapper aux guêpes. Cela dit, il faudrait qu'elle trouve quelque chose de frappant, car il ne lui restait plus que deux nuits pour le mater, ce fichu Malkyrie. Une fois à Chachin, elle serait bien trop occupée pour se soucier encore de lui. Oui, bien trop occupée.